Maintenant, on va introduire Veritatis Splendor. Alors, qu'est-ce que c'est que Veritatis Splendor? C'est une encyclique, la grande encyclique d'anthropologie morale. Et on va voir pourquoi l'Église a écrit ce texte. C'est pour réajuster, corriger des grandes déviations dans la théologie morale contemporaine. Mais auparavant, je vais vous donner un texte à lire sur le but ultime de cette réflexion qui est spirituelle. Parce qu'on peut faire une analyse naturelle et on peut faire une analyse ultime. Autant aller au but. Donc ça c'est comme ça et ça c'est comme ça. Donc vous lisez le texte. Alors, on va donc présenter l'encyclique Veritatis Splendor, et il me semble que ce texte, qui se situe dans la troisième partie de l'encyclique, vient comme synthétiser le cœur de l'encyclique, à savoir que la personne même du Christ est comme le fondement et la fin de l'agir proprement chrétien, et donc suivre sa conscience, c'est en fait ultimement rencontrer le Christ et le suivre. La thèse de l'encyclique, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, VBL. Il ne faut jamais séparer le vrai, le bien et la liberté. Et ce qui fait ce lien dans la vie, c'est la conscience. C'est la conscience qui va reconnaître la vérité, qui va le relier à la liberté, qui va choisir de faire le bien. La synthèse de ce rapport, l'excellence de ce rapport, la liberté authentique, se découvre dans la personne même du Christ. Le Christ nous révèle avant tout que la condition de la liberté authentique est de reconnaître la vérité honnêtement et avec ouverture d'esprit. Bon. Cette ouverture, voilà, elle conduit à un acte d'adoration. Voilà. Ça, je pense, c'est intéressant d'un point de vue aussi pratique. Celui qui veut être vraiment dans la vérité, être vraiment libre, il doit d'abord vivre dans l'adoration, c'est-à-dire se recevoir de Dieu. Celui qui adore se reçoit d'un autre. Il se reçoit. Adoration. D'un point de vue se recevoir de Dieu. On est libre. En Jésus-Christ, l'attachement à la vérité et à l'adoration de Dieu se présente comme les racines les plus intimes de la liberté. Chercher la vérité et adorer Dieu. Intéressant. Alors qu'on pourrait penser que l'émergence de la liberté, c'est être toujours dans une liberté de choix maximale, en étant indépendant. Ici, la racine de la liberté, c'est la vérité et l'adoration de Dieu. Donc, deuxièmement. Ensuite, l'émergence de cette liberté se fait dans l'amour, c'est-à-dire dans le don de soi. Amour, don de soi. Ça, c'est à l'entrée, se recevoir. Ça, c'est à la sortie, se donner. Se donner. Et d'un point de vue pratique, c'est « je suis fait pour servir ». Il y en a qui connaissent Balthazar, ici ? Non, non, le roi mage n'a pas existé. Tu t'appelles Balthazar ?
Comment ?
Tu t'appelles ?
Emmanuel.
Emmanuel, d'accord. Tu connais un petit peu, hein ? C'est bien. Tu as bien raison. Moi, j'ai fait ma thèse sur Balthazar. C'est de l'or. C'est de l'or. Voilà. Balthazar, hein, c'est un très grand théologien, c'est le théologien le plus influent sur la pensée de Jean-Paul II et de Ratzinger. En cela, il a quelque chose à nous dire. Et voilà, aimer et servir. Voilà. Aimer et servir. Être aimé et servir. C'est, il reprend l'exercice numéro 25 de Saint Ignace de Loyola, voilà, qui dit que, bah, aimer et servir. Il est fait pour aimer et servir. Être aimé, aimer, servir. Notre être est fait pour servir. Notre être est fait pour se donner. À nous de trouver le lieu où on va se donner complètement. Le mariage est un lieu formidable d'oubli de soi et de don de soi-même. La vie consacrée, c'est formidable. Voilà. C'est-à-dire, trouvons les lieux où on est fait pour servir. Voilà. Alors, ce qui donne le climat de se recevoir et de se donner, c'est la personne du Christ crucifié. C'est en nous tournant vers le crucifix, en méditant les mystères de la croix, que notre liberté trouve sa vérité qui rend libre. Voilà. Ça va contre une précompréhension psychologique, mais c'est vraiment là. C'est dans la croix, parce que le Christ se reçoit complètement du Père, à la croix, se donne complètement à son Père par l'offrande comme un agneau de sa vie. Et c'est là non seulement où il révèle, mais où il est l'amour donné. Sous son contraire apparent, puisque la croix était le signe objectif pour les Juifs que l'homme n'était pas de Dieu, qu'il était rejeté par Dieu. Donc c'est en regardant le Christ, on est dans le carême, on va suivre le Christ jusqu'à Pâques, et c'est de comprendre le mystère du salut. C'est la croix qui nous sauve. 1 Corinthiens 5, il s'est fait péché pour nous. Il a pris sur nous notre péché. Au cœur même de la plus grande adversité, au cœur même du plus grand non-amour, il va seulement être l'agneau immolé. Il va se donner gratuitement. Vous voyez, il se donne gratuitement jusqu'au bout, au cœur même de l'adversité la plus grande. Voilà. Et ça détermine le sens de la charité. Voilà. Donc la conclusion, c'est de dire Jésus est la synthèse vivante et personnelle de la liberté parfaite. Si vous voulez être vraiment, vraiment libre, suivez le Christ. Adhérez à cette personne. Unissez-vous, laissez-vous aimer. Suivez-le. Laissez-vous configurer à son être. Et là, vous serez vraiment libre. Et à ce moment-là, l'obéissance totale à la volonté de Dieu sera libératrice et non pas écrasante. Et donc, son corps crucifié est la pleine révélation du corps indissoluble entre la liberté et la vérité. Le corps crucifié, la croix au cœur même de notre vie. Vous êtes peut-être un peu jeune pour qu'on ait un langage aussi direct. Mais je peux vous dire que si vous choisissez la croix de Jésus, vous serez les hommes les plus libres qui existent. Bon, c'est pas naturel de dire ça, c'est surnaturel. Donc c'est un chemin d'excellence. Le corps crucifié est la pleine révélation du lien indissoluble entre la liberté et la vérité, de même que sa résurrection des morts est la suprême exaltation de la fécondité et de la force salvifique d'une liberté vécue dans la vérité. Donc le but, c'est pas la croix. La croix, c'est un moyen. Le but, c'est la participation au salut que le Seigneur nous donne sous le mode de la résurrection. Voilà. L'exaltation de son corps crucifié qui anticipe notre vie future. Voilà. Et dès aujourd'hui, on peut anticiper cette vie future par ce qu'on appelle la tension eschatologique. Ça vous dit quelque chose, la tension eschatologique? Oui? Un peu? Mais ça, c'est le cœur de la vie chrétienne. Le cœur de la vie chrétienne, c'est de vivre aujourd'hui déjà dans cette tension de ce royaume qui vient, au cœur même de la présence du Christ glorieux qui se révèle en nous sur la croix. Oui, c'est beaucoup de choses en même temps, mais c'est en fixant notre regard sur le Christ, sur sa croix et sur son exaltation, sur sa résurrection, qu'il y a le chemin le plus direct du salut pour aujourd'hui, pas pour après la mort, pour aujourd'hui. Et donc on peut déjà goûter aujourd'hui à la promesse que le Seigneur accomplira plus tard. Et donc dans l'instant présent, on peut réussir à faire dans le Christ, par le mystère de sa croix et de sa résurrection, ce lien parfait qu'il y a entre la vérité et la liberté. Et donc d'unifier notre vie, que cet universel auquel on aspire devienne réellement singulier dans ma vie, d'aujourd'hui, maintenant. Et ça, c'est le mystère de la foi chrétienne, que ce salut, il est pour aujourd'hui, il n'est pas pour demain. Et que tout l'art de la vie chrétienne, de la vie catholique, c'est de nous insérer dans ce mystère-là, de présence mystérieuse, d'un salut qui nous est donné pour aujourd'hui. Mystère de vie. Voilà. Donc là, c'était pour signifier un peu le but de cette réflexion, qui est un peu plus spirituelle. Maintenant, on va revenir à la présentation générale de l'encyclique.